Taux d'intérêt, liquidité et programme de quantitative tightening, ce qui va vraiment compter ce mercredi 29 octobre avec la nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et la conférence de Jérôme Powell. Chers amis, suivez chaque matin mes analyses publiées sur le profil Swissquote du site TradingView, une analyse par jour sur toutes les classes d'actifs. Et enfin, je vous rappelle que le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Alors, dans un nouveau lieu, soyez indulgents, je suis en train de le prendre en main. Il y a plusieurs façons de cadrer. Je suis enfin arrivé dans mon nouveau chez moi. Je vous garantis que c'est toujours étrange de faire un déménagement, reprendre ses habitudes. J'ai complètement changé, hein. Je suis à plus d'une heure de transport de mon ancien logement. J'ai quitté Paris intramuros. Je suis dans un lieu caché, un lieu surprise, un lieu inédit, pour moi en tout cas. Mais il peut y avoir des petits indices ci et là. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour cette édition Fast and Forex un peu spéciale, puisque en général, je traite le sujet de la Fed essentiellement dans le Top Gun du lundi, mais ce mercredi 29 octobre, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, très attendue dans un contexte particulier, parce que vous le savez, depuis le début du mois d'octobre, c'est le shutdown. Alors, des statistiques ont pu être publiées pendant cette période, en particulier la semaine dernière, la mise à jour en retard des chiffres de l'inflation US selon le CPI. Le marché action est tout en haut. Cette semaine est hyper chargée sur le plan des fondamentaux. L'accord commercial très attendu entre la Chine et les États-Unis. Et donc, la Fed qui arrive. Alors, autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment de suspense en ce qui concerne le cycle des taux d'intérêt de la Fed, en ce qui concerne ce que le marché anticipe quant au taux d'intérêt des fonds fédéraux, qui devrait à nouveau baisser de 25 points de base. Mais d'autres facteurs vont compter dans cette décision de politique monétaire, et en particulier la politique monétaire dont on parle beaucoup moins parce qu'elle fait beaucoup plus rêver en phase d'expansion du bilan de la Fed, le programme de quantitative easing. Lorsque le bilan de la Fed augmente et que la liquidité globale augmente, que les réserves des banques augmentent et capables de prêter davantage à l'économie, sauf que depuis 2022, vous le savez, c'est le programme inverse qui s'est déployé, le programme dit de quantitative tightening, ce programme-là qui, chaque mois, réduit le bilan de la Fed, mais aussi depuis 2024, 2022 son point de départ, 2024, la réduction du bilan de la Fed se réduit. Réduire une réduction. La vitesse de baisse du bilan de la Fed s'est réduite. Et donc, ce mercredi 29 octobre, dans un cas très particulier qui a vu, vous l'avez noté ce mois-ci, retour une mini-crise des banques régionales US, enfin, deux d'entre elles qui ont été mises un peu en difficulté, encore une fois avec des investissements toxiques. Et oui, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans leur bilan. Bon, en tout cas, Jérôme Powell a laissé entendre que ce programme de quantitative tightening devrait au minimum voir sa vitesse de réduction encore baisser, c'est-à-dire le montant mensuel d'obligations qui arrivent à expiration, qui ne sont pas réinvesties, potentiellement arriver à zéro. Autant vous dire qu'un programme de quantitative tightening qui arrive à zéro, bah c'est la fin du programme de quantitative. Alors, certains envisagent déjà le retour du quantitative easing. Attention, ce ne sera pas le cas. Déjà, nous allons voir ce que Jérôme Powell nous indique cette semaine. Alors, pourtant, ce mercredi 29 octobre, vous n'avez pas de mise à jour des projections macroéconomiques de la Réserve fédérale des États-Unis. Ce qui va vraiment compter, c'est donc, bien sûr, la décision en matière de taux. Puis aussi, Jérôme Powell va beaucoup s'exprimer, notamment dans la conférence de presse. Bah, c'est plus ou moins là où il va s'exprimer, parce qu'il y a le communiqué de presse qui est un peu laconique, et puis après, il va causer. Il n'y a pas de mise à jour des projections macro. On a besoin de connaître son avis sur les stats. Ben, il n'y a pas de chiffre de l'emploi. Alors, pas de chiffre de l'emploi depuis un mois. Le dernier rapport NFP a sauté à cause du shutdown. Il y a quand même des données alternatives qui montrent que l'économie US actuellement en termes de création d'emploi, c'est zéro. Taux de chômage, il n'est pas loin du seuil d'alerte de la Fed. Les chiffres du CPI la semaine dernière montrent en fait que pour le moment, l'impact des tarifs douaniers est vraiment résiduel. Enfin résiduel, il maintient quand même le taux d'inflation un point de pourcentage au-dessus de 2, mais il n'y a pas d'envolée de l'inflation mensuelle. Donc, ce qui montre que les entreprises en absorbent l'essentiel. Elles ont compris qu'il ne fallait pas non plus tuer le consommateur. Bon. Le marché va regarder beaucoup de choses, et c'est d'autant plus important que, vous le savez, le marché, le S&P 500, ça je vous renvoie vers mes précédents Top Gun, est pas loin de son record en termes de valorisation. Il y a plusieurs critères de valorisation boursière, mais on peut notamment regarder le price earning de Schiller, le PE de Schiller, qui est pas loin de son record de 2000, la bulle à l'époque, la bulle financière, la bulle d'autres. Comme d'habitude, chers amis, cette vidéo est structurée. On commence déjà par les anticipations concernant cette décision de politique monétaire du 29 octobre. Ensuite, les facteurs fondamentaux que va regarder le marché. Je les couvre tous, je les liste tous. Un focus détaillé sur l'aspect chiffré du programme de quantitative tightening. Et puis, en termes de réaction de marché, je pense qu'il y a un actif dont la réaction sera majeure. Chers amis, on attaque. La liquidité quantitative easing, le grand rendez-vous de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Ce mercredi 29 octobre, je déclare la session ouverte. On va passer en vue un certain nombre de points, chers amis. Je vous ai donné le plan à l'instant. Il s'affiche ici à nouveau sous une... Perdons pas davantage de temps, nous passons directement au vif du sujet. Alors, comme d'habitude, j'ai voulu un peu résumer les choses en mettant ça à l'écrit. Sans surprise, la probabilité de voir la Réserve fédérale des États-Unis baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux ce mercredi 29 octobre est de 96%. Alors, en grande partie parce que les chiffres de l'emploi ont été publiés au mois de septembre. Je vous rappelle qu'à cause du shutdown, on a maintenant un mois de retard en ce qui concerne les chiffres de l'emploi, même si des données alternatives montrent que le marché du travail américain est à l'arrêt. Et puis surtout, vous avez eu donc, avec retard, vendredi dernier, la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, l'inflation CPI. L'inflation CPI qui a été publiée la semaine dernière, qui est en léger recul en version sous-jacente, et puis surtout en version mensuelle. C'est ça que regarde le marché, parce que c'est le taux de variation mensuel qui permet d'envisager si les tarifs douaniers ont un impact majeur sur l'inflation. Et le chiffre en version core est ressorti à 0,2. C'est le monde d'avant Covid. Il n'y a pas d'envolée de l'inflation liée aux tarifs douaniers. Donc, ce qui permet d'avoir une probabilité forte que la Fed baisse son taux d'intérêt à la fois lors de la réunion du 29 octobre et du 10 décembre. Bon, ça peut paraître acquis. Cette décision de politique monétaire du 29 octobre, elle ne s'accompagne pas de la mise à jour des projections macroéconomiques. Je suis ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, donc vous pouvez constater que 28-29 octobre, à la différence de la réunion du 16 et du 17 septembre dernier, vous aviez donc ici une petite astérix. Cette petite astérix signifie quoi ? La Fed met à jour ses projections macroéconomiques. Les projections macroéconomiques se présentent sous la forme d'un tableau. Ces projections ne seront pas mises à jour. Grosso modo, les chiffres qui ont été publiés depuis, puisque certains ont été malgré le shutdown, confirme pour le moment les anticipations de la Fed. On a une inflation de fin d'année qui est autour des 3%. Mais donc, qui ne s'emballe pas. Il n'y a pas de seconde vague d'inflation. Donc, ce mercredi, ce qui va vraiment compter, c'est la conférence de presse que va donner, bien sûr, Jérôme Powell. Le wording, ce que les anglo-saxons appellent le wording, les mots, c'est-à-dire que dans le communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis, qui est publié, donc vous êtes sur le site de la Fed, vous allez sur cette ligne, et à chaque décision de politique monétaire, vous avez le communiqué de presse et les projections macro. Alors les projections macro, c'est une fois sur deux. Ce que le marché d'abord va regarder, c'est la confirmation à travers les mots, le verbe, la confirmation de l'équilibre retrouvé entre l'emploi et l'inflation. Le marché a besoin d'avoir cette confirmation que la Fed regarde l'emploi, plus que jamais l'emploi, pour assouplir sa politique monétaire. Mais le vrai sujet, c'est pas ça en fait. J'ai presque envie de vous dire que ce communiqué de presse, on s'en fiche un peu. Ce que va regarder le marché, deux lettres. Le Q pour quantitative, et alors pas de E bien sûr, ça c'était le un certain temps, c'était pendant la crise sanitaire le dernier, et le T, quantitative tightening, la réduction du bilan de la Fed. Car oui, depuis 2022, le bilan de la Fed est en phase de réduction. Je l'illustre de ce pas, vous avez sous les yeux, si ma grosse tête disparaît, vous avez sous les yeux deux informations. Première information, la courbe en violet ici représente le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Alors, la Fed a baissé ses taux en septembre, l'essentiel de l'année 2025 avait eu une pause, après une baisse des taux fin 2024, et donc, selon les anticipations du marché, D'ici la fin de l'année 2025, on a au minimum 50 points de base de baisse des taux d'intérêt, c'est-à-dire 2 fois 0,25. Ça, c'est une première information. La seconde information, c'est la ligne bleue sur le graphique, qui représente le bilan de la Réserve fédérale des États-Unis, les actifs financiers qu'elle détient, les obligations qu'elle détient dans son bilan. Et vous l'avez remarqué, depuis le début de l'année 2022, dans un objectif de mettre un terme à cette vague d'inflation, qui d'ailleurs a le coup tordu quasiment cassé, hein, faut le dire. On vient de 8-9%, on est à 3. Et encore le PCE est aussi plus proche de 2,5 que de 3. Mais le bilan de la Fed, lui, continue de se réduire. Alors, déjà, la simple observation de la courbe vous montre quelque chose. La pente devient de moins en moins forte. Donc, le principe du quantitative easing, par exemple, vous aviez ici celui de la crise sanitaire en 2020, l'explosion du bilan de la Fed, pour soutenir la liquidité, soutenir l'activité économique, l'activité bancaire, bon bref, relancer la croissance. Et au contraire, dans cette volonté de juguler l'inflation, la Fed a réduit son bilan. Il y a deux informations qui comptent. La tendance, donc le fait que la courbe bleue soit baissière, c'est le quantitative tightening, et la pente, le momentum, la pente de réduction. Et depuis 2024, vous pouvez observer que depuis 2024, il y a ce qu'on appelle le tapering, réduire dégressif, la pente de réduction du bilan de la Fed se réduit. Et arrive un moment où cette réduction de la pente peut arriver à une mise à plat. La mise à plat, c'est la fin du programme de quantitative tightening. C'est ça que va regarder le marché. C'est le facteur fondamental dominant de cette semaine. Alors, je vais illustrer mon propos. Avant de regarder en détail ce programme de quantitative tightening, je vous ai fait ici un tableau synthèse. J'aime bien, maintenant je mets un peu de couleur. Ça permet d'avoir une vue sur tous les facteurs fondamentaux que la haute finance va regarder cette semaine. Je ne m'attarde pas trop sur ce sujet parce que les éléments seront publiés mercredi et c'est dans le Top Gun de lundi prochain que je ferai une synthèse globale. Et grosso modo, la décision en matière de taux d'intérêt, la décision en ce qui concerne la politique monétaire donc non conventionnelle, le rythme du quantitative tightening, le communiqué de presse, la conférence de presse de Jérôme Powell, les mots qui seront choisis en ce qui concerne l'inflation, les mots qui seront choisis en ce qui concerne le marché du travail, les mots qui seront choisis en ce qui concerne la liquidité générale, le marché, le secteur bancaire en particulier, les mots qui seront choisis en ce qui concerne les perspectives de politique monétaire, et bien sûr le marché va donc à travers ça juger la crédibilité de la Fed, l'impact sur le dollar et aussi un autre actif important à regarder, ça j'en parlerai en toute fin de vidéo. Donc là, vous avez à travers ce tableau tout ce qui va compter. Ça fait beaucoup de choses. Cependant, au sein de tous ces facteurs qui vont compter, en réalité, seulement 2 ou 3 vont vraiment avoir un impact extrêmement fort sur le marché. Alors, je les ai appelés les facteurs réels d'influence. Ceux qui vont peser sur les prix, ceux qui vont peser sur le marché actions US, ceux qui vont peser sur les taux d'intérêt, donc le prix des obligations, les facteurs qui vont peser sur le dollar américain. Première information, elle sera disponible. La première information qui sera disponible, bien sûr, le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Alors, 0,25, c'est acquis. Un jumbo Fed cut sera vraiment une surprise, mais c'est la base, tout le monde attend ça. Autant vous dire une chose, cette réduction du taux d'intérêt des fonds fédéraux, elle est dans les cours. Deuxième information que va regarder le marché, c'est le ralentissement du programme de quantitative easing. Jerome Powell, dans sa dernière prise de parole, qui n'était pas lors d'une décision de politique monétaire, a insisté, en tout cas, a mentionné le fait que était venu le temps de stopper la réduction du bilan de la Fed. Alors qu'il y a eu un tout début, mais vraiment tout début, de résurgence de la crise, des difficultés, des banques régionales. Alors, l'autre facteur qui va vraiment compter, c'est la vision de la Fed sur l'inflation. Dans le communiqué de presse, en général, c'est dans les deux premiers paragraphes, la Fed donne son opinion sur l'inflation. En général, elle continue de la qualifier de relativement élevée. Ça fait très longtemps que le communiqué de la Fed n'a pas mis en avant les progrès réalisés en matière de désinflation. Ça, c'est ce que va regarder le marché. Mais le plus important, et donc j'y arrive, trêve de suspense, ça commence à faire beaucoup, trop long, trop de temps pour en parler, il est là, il est sous vos yeux, le programme de quantitative tightening. Ça, concrètement, on en parle moins parce que c'est moins compris, parce qu'on parle surtout des taux d'intérêt, et il est vrai que ce bilan de la Fed, c'est un des points centraux de la liquidité globale. J'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer que la liquidité globale, c'est à la fois la masse monétaire M2, et c'est aussi la liquidité nette au sein du système financier. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans un Top Gun il n'y a pas très longtemps, le compte de trésorerie, le TGA, le compte du trésor public auprès de la Fed, qui se remplit, qui se vide. D'accord? Et puis, vous avez le programme de reverse repo chase, et l'évolution du bilan de la Fed à travers quantitative easing, quantitative tightening. Alors cette liquidité, cette tendance de fond de la liquidité, elle est corrélée aux actifs risqués en bourse. Ici, vous avez donc cette courbe bleue qui est une synthèse intéressante parce qu'elle représente à la fois la tendance des M2 du monde, des principales économies, la masse monétaire M2, déconvertie en dollars. Et cette courbe intègre le bilan de la Fed, alors aussi le bilan de la BCE, le bilan de la Banque centrale de Chine, le bilan de la Banque centrale du Japon et le bilan d'autres banques importantes, plus le compte du Trésor public auprès de la Fed, le TGA, renvoie vers mes deux derniers Top Gun, et le programme de reverse repurchase, reverse repo. Donc lorsque les banques mettent en pension des titres auprès de la Fed, elle se sépare en fait de liquidité. Non, c'est le contraire. Non, pour moi. Les banques régionales stockent de la liquidité auprès de la Fed. Bon, tout ça compte. La Fed n'a pas la main directe sur le programme de reverse repo. Donc, font ce qu'elles veulent. Ce sont des opportunités de marché. Bon, en ce qui concerne le programme de quantitative easing ou de quantitative tightening, le bilan de la Fed a totalement la main. Alors ici, j'aurais pu prendre le S&P 500, mais quand je parle de corrélation positive entre cette liquidité structurelle globale, avec un point majeur, avec la place centrale du bilan de la Fed et les actifs risqués en bourse, vous pouvez quand même observer qu'il y a une relative corrélation visuelle entre, par exemple, ici, le cours du Bitcoin et cette liquidité globale. Donc, ce bilan de la Fed dont la réduction est de moins en moins pentue, cette réduction pourrait donc se mettre à zéro. Mais ce n'est pas sûr. Alors, où en est-elle actuellement justement cette réduction? Quels sont les chiffres? J'y viens. Donc vous avez sous les yeux, ça, ce tableau est vraiment intéressant. Le programme de quantitative tightening est ici complètement chiffré. Le quantitative tightening a donc commencé, c'était en début d'année 2022. C'est bien en début d'année 2022, vous voyez ici. Donc c'est en avril-mai 2022 que le bilan de la Fed a atteint son point culminant, avec 9 trillions de dollars. Et depuis, le bilan de la Fed s'est quand même significativement réduit, puisqu'il est à 6 trillions de dollars. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le quantitative tightening. Et à l'intérieur du quantitative tightening, vous avez donc un montant mensuel de réduction. Donc d'abord, le montant du quantitative tightening, c'était de 25 milliards par mois, puis c'est monté à 60 milliards par mois. C'est resté stable autour des 60 milliards par mois jusqu'à la fin d'année 2023 et depuis début 2024, 55 milliards par mois, 45 milliards par mois en décembre 2024, 40 milliards par mois en mars 2025 et la dernière réduction du QT, donc réduire le QT, c'est le tapering. La dernière opération de tapering, ce fut en juin 2025, à 35 milliards par mois de réduction du bilan. Ce que va regarder le marché cette semaine, c'est ça. Est-ce que ce 35, ici, va devenir 20, 15, 10, 5, 0 ou est-ce que ce 35 va devenir 20 maintenant et avec une perspective annoncée de 0 en décembre ou pas? Bon, c'est ça que va regarder le marché. Car si le programme de quantitative tightening s'arrête, cela aura un impact substantiel sur l'évolution de la liquidité globale. Et cette liquidité globale est corrélée donc aux actifs risqués en bourse. Alors pour résumer, une petite infographie rapide. Le programme de quantitative tightening, la réduction du bilan de la Fed, a donc commencé au début de l'année de 2022. À partir de l'année 2023, nous sommes en train d'une phase de réduction de la vitesse de baisse du bilan de la Fed. Réduction de la vitesse de baisse du bilan de la Fed. Et donc l'idée, c'est est-ce que fin 2025, début 2026, verra l'arrêt, en fait, de ce programme de quantitative tightening. En termes d'impact, voilà, j'en vais un peu vite. Bon, les choses peuvent paraître logiques par rapport donc à ce qui va être annoncé ce mercredi. Donc, je fais des slides beaucoup plus épurés. Hein. Dites-moi si ça vous plaît ou pas, ou si vous préférez les slides à l'ancienne ou que j'alterne, on verra. Mais concrètement, le combo gagnant, c'est ça. Une baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, plus l'annonce d'un ralentissement du QT, voire carrément son arrêt. Alors là, autant vous dire que cela aura un impact très positif sur les actifs risqués en bourse. Si ce mercredi, la Fed annonce simplement une baisse de taux, mais qu'il n'y a pas de modification du programme QT, ni même de perspective annoncée, alors l'effet, autant vous dire que pour moi, l'effet sera au mieux neutre à modéré, voire bearish, parce que la baisse de taux est complètement intégrée dans les cours. Le 0,25 est intégré dans les cours. Certains rêvent d'un jumbo Fed cut d'un 0,50. Ça peut être une surprise, on verra. Alors bien sûr, en cas d'absence de baisse de taux, imaginez que la Fed, rappelez-vous, hein, ce n'est pas Jérôme Powell qui décide, ce sont les membres du FOMC. Imaginez que certains membres votent pour un statu quo eu égard au shutdown. Ah oui, en attendant, écoutez, on n'agit pas maintenant, on n'a pas assez de data. Alors, ce sont des data alternatives. Et les antennes régionales de la Fed bossent. Elles ont des chiffres alternatifs à ceux du ministère du Travail américain. Mais effectivement, s'il n'y a pas de baisse de taux ce mercredi et que le QT continue dans ses montants actuels, alors autant vous dire que le S&P 500 va se prendre une sacrée correction. Le marché va regarder la Fed. Au final, tout ça pour ça, je pense que le facteur fondamental dominant, c'est Jérôme hein, qui a ouvert la porte à toutes les fenêtres, c'est Jérôme qui a commencé à en parler il y a 3 semaines, surtout avec la volatilité qu'il y a eu sur banques régionales. Je vous montrerai lundi dans le top 10 l'indice sectoriel des banques régionales, il y a disponible sur TradingView. Le marché va regarder 2 choses, pas la baisse de taux de ce mercredi, on s'en fiche, le QT et les perspectives de baisse des taux d'intérêt. En ça, en cela, au-delà de l'ajustement lié au marché du travail, c'est la confiance des économistes de la Fed quant à la désinflation qui compte. Mais si vous ne deviez choisir qu'une seule information ce mercredi, le QT, rappelez-vous, il est actuellement de 35 milliards par mois en termes de réduction, et le marché espère donc que cela va basculer. Et zéro, tout le monde espère du zéro, ou en tout cas que le chemin soit tracé vers zéro. Alors, qu'est-ce qui va... Cette semaine, l'impact sur le dollar peut être compliqué parce qu'il y a d'autres fondamentaux qui vont côté. Il y a l'accord commercial Chine-États-Unis. Le dollar est déjà tout en bas. C'est un mouvement baissier qui est bien mature. Alors oui, effectivement, si le QT s'arrête, le dollar va baisser. Mais si c'est simplement encore une énième réduction du QT qu'on n'est pas à zéro, le dollar, là, est plutôt rangy. Non, moi, je pense que c'est vraiment l'or. L'or qui a été très topiche. L'or qui, depuis quelques séances, a fait des séances de correction après avoir atteint les 4 300 $. Et il faudra regarder vraiment l'arbitrage entre, d'un côté, les small cap US et l'or. si suite à la décision de la Fed, typiquement si vous avez un arrêt du QE, une augmentation significative de ces conditions de liquidité, ça va soutenir les small et mid cap. Toutes les valeurs cycliques, petites et moyennes, hypersensibles à la liquidité. Et forcément, si la Fed choisit ce chemin, c'est l'or qui confirmera avoir fait un top majeur. Mais ne nous avançons pas, nous verrons les signaux techniques en fin de semaine. Nous sommes là mercredi, quand cette vidéo est publiée, nous attendons les informations de la Fed. Les signaux techniques qui seront donnés à la clôture de cette semaine, j'insiste, les signaux techniques qui seront donnés à la clôture de cette semaine seront passionnants pour fixer les tendances de fin d'année. Et ça, je vous résumerai tout ça la semaine prochaine, dans la prochaine édition du Top Gun et la prochaine édition du Fast and Forex. Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournis à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, direct ou indirect, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets LTD régulé par la SAISEC, Swissquote Bank Europe SA régulé par la CSSF, Swissquote LTD régulé par la FCA, Swissquote Financial Services LTD régulé par la MFSA, Swissquote MEA régulé par la DFSA, Swissquote PTE LTD régulé par la MAS, Swissquote Asia Limited licencié par la SFC et Swissquote South Africa LTD supervisé par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris, mais sans s'y limiter, actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.